Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif, tu trouveras différentes ressources gratuites pour t'aider à remonter la pente, mais la plus importante reste l'appel que je t'offre pour qu'on puisse parler de tes difficultés, ce que tu affrontes en ce moment et voir ce que tu peux mettre en place pour t'en sortir. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode.
C'est Julie, j'ai fêté mes 31 ans en avril. J'ai commencé par une double licence de langue. J'ai été prof de français aux États-Unis. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas pour moi, j'avais pas la patience. Donc après, j'ai enchaîné avec une école de commerce, sans trop vraiment bien savoir quoi faire, mais bon, les langues en soi, on peut pas faire grand chose avec si on veut pas l'enseigner, donc commerce, la suite un peu logique. Au fur et à mesure des jobs, je me rendais compte que passer les 2-3 premiers mois qui sont un peu fun, parce que tu découvres le poste, l'industrie, etc., bah à chaque fois, je m'ennuie sévère. Pourtant, j'ai fait plein d'industries différentes. Hein. J'ai fait de la cosmétique, de l'énergie, voilà, de l'enseignement, et à chaque fois la même chose, le marketing. Peu importe le poste, au bout d'un moment, j'ai l'impression que de vendre du vent en fait. De vendre des cases de pub dans un email. Voilà, j'avais pas d'attachement très important au poste. J'ai l'impression voilà, vraiment de vendre du vent et. Et ça s'est répété dans pas mal de jobs, donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, me poser une autre question, est-ce que le marketing est fait pour moi, tout simplement. Voilà, il y a eu des patrons un petit peu désagréables au fur et à mesure des jobs aussi. J'ai vu une de mes cousines se faire détruire par un job. Là, ça fait 10 ans que c'est passé, c'est toujours pas revenu à la même, c'est toujours pas ma cousine. Et ma mère avait une expérience... très compliqué aussi quand elle était enceinte de moi, mais vraiment ce qu'on peut voir dans les films, quoi, caricature, le diable s'habille en Prada devant les clients, horrible. Et je pense que ça s'est. Il y a eu des petites répercussions sur moi quand même, et je voulais pas que le schéma se répète. Et quand j'ai senti les tensions, etc., que j'étais enceinte, je me suis dit non, stop, c'est. Non.
Je prends pas de risque.
On arrête tout de suite. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai commencé à pâtisser comme beaucoup de gens pendant les.
Faire du pain.
Voilà.
C'est la
dernière
du pain,
le premier
confinement.
J'ai fait la tu vois, il y a des recettes de dingue des gens tout ça, qui postaient sur les réseaux.
Et il y a une petite idée qui m'est revenue d'un lieu que j'adorais quand je travaillais aux Pays-Bas, qui était un salon de thé spécialisé dans le yaourt. Bah, ça a germé pendant le confinement, puis je me suis dit pourquoi pas. On n'a qu'une vie, a priori le marketing, la boîte, c'est pas fait pour moi parce que j'enchaîne comme 5 jobs différents. Ou à chaque fois, c'est la même chose. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui me soutient parce que je pense que sans ça, je ne serais pas non plus prise moi-même à demain et dire allez, on y va. Donc j'ai créé le concept, pas créé du coup, un peu copié, adapté.
Inspiré,
en fait. Tout à fait, belle image. que j'ai appelé la cabane lactée. Pour le côté un peu green, parce que j'ai envie de dire évidemment, parce que pour moi c'est évident, mais tout ce qui est légumes, fruits, ce sera en circuit court, bio, etc. Enfin, tout ce que je peux être local, ce sera local, biodégradable, enfin, tous les contenants, etc. Pour moi c'est une évidence. Mais,
et ouais. Du coup, tu l'as croisé toi le burn-out dans ta vie?
Je sais pas si c'est le burn-out à proprement dit ou si c'est un bore-out à répétition. Ou alors un job où je reste pas à l'issue de la période d'essai parce que la manager est juste exécrable et qu'il y a une nana avant moi qui a fait un burn-out et je me dis ça sent mauvais quand même.
Non, bah c'est bien, du coup, t'es assez souvent dans l'anticipation.
Ouais,
je connais, ouais, non, ça pue. Non,
je vois qu'elle doit. Non, quand la nana, que tu connais depuis 3 mois, te dit il y a des colliers marketing en bas à récupérer. Bonjour,
avez-vous bien dormi apparemment, non?
L'agression gratuite comme ça, je comprends pas en fait.
Ouais, t'imagines ça au quotidien,
je l'ai vécu pendant 3 mois et je me dis encore, je pense qu'il y a pire.
Non mais c'est bien, non, c'est vraiment correct. On devrait tous faire ça, de pas prendre des risques pour rien. Si tu sens que l'environnement est hostile, c'est tout, tu te bats. Si tu te rends compte qu'à plusieurs reprises, t'enchaînes des boulots et que ça se passe toujours mal, à un moment donné... c'est peut-être t'as un souci en fait. C'est pas forcément toujours les collègues qui ne vont pas, peut-être que c'est carrément le domaine qui va pas ou la forme qui ne va pas. Et
ouais, il y a des moments où l'équipe était top, mais le boulot séchait royalement, et des fois c'était l'inverse.
Et du coup, tu lui donnerais quoi comme définition, toi, de burn-out ? Burn-out, le boring out ou burn-out, voilà, l'épuisement physique et émotionnel.
Sensation de vide, de pas savoir à quoi servir, d'avoir l'impression d'être inutile, de. Alors qu'il y a plein de monde autour, etc. C'était pas le souci, mais.
C'est dans la tâche, en fait, le vide. Ouais. C'est la période où il n'y a pas de sens dans ce que tu fais et ça n'a pas d'utilité.
Et je sais pas pourquoi, un jour, j'ai rien à faire, je m'ennuyais encore, donc j'étais en train de scroller, je vois, voir ce qu'il y a. Et je sais pas pourquoi je me suis arrêtée sur une machine à coudre. Je fais, allez, c'est l'occasion. Alors je savais même pas coudre un bouton. Attention, le niveau était quand même très très bas. Et je sais pas, c'est venu comme une envie de pisser, excusez-moi l'expression, mais c'est venu comme ça. Et je me suis dit, allez. J'ai pris 2-3 cours et ma troisième réalisation toute seule, j'ai fait une combi short avec ceinture élastique, biais au col, fermeture éclair. Et depuis, c'est l'éclat. Je fais plein de trucs et je me suis dit, c'est cool en fait. Et là, j'ai l'impression d'avoir, un peu comme toi avec le tricot, je pense, d'avoir une bouffée d'énergie, un truc qui renaît. Je me dis, je suis capable de choses, quoi. Avec mes mains, voilà, là, c'est du concret, je vois vraiment ce que je fais et ce que j'apporte, entre guillemets. C'était pour moi, mais c'est revenu d'un peu, quoi. Et là, avec la pâtisserie, pareil, ça revient et je me dis, putain, je suis capable de choses quand même.
C'est vrai que dans les moments où t'es vraiment pas bien et tout, des fois, ça fait du bien de faire des trucs, ça peut être n'importe quoi. Alors, moi, je sais que j'ai eu une période où j'étais pas bien, je me suis acheté une guitare. Et j'ai décidé d'apprendre à jouer de la guitare. Ben, en fait, c'est con, mais tu vois, ça t'aide à te recentrer sur toi-même. Et en fait, tu vois ta progression aussi. Et c'est comme quand tu fais de la couture ou tu fais des ateliers créatifs, n'importe quoi. Le fait d'avoir fait un truc de tes mains dont t'es fière, ben, en fait, déjà, je trouve ça aide vachement à se vider la tête, à se recentrer et tout. Et en même temps, ça te renvoie un sentiment de fierté direct, en fait. Et ça te met vraiment du baume au cœur. Je trouve que ça fait du bien.
La musicothérapie.
Exactement. Ouais.
Non, mais tout.
Je suis toujours aussi nulle en guitare, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, à cette époque-là, j'étais super fière de moi parce que j'arrivais à faire 3 pauses à quoi.
Non, mais c'est vraiment ça, c'est booster l'estime de soi.
C'est ça, exactement.
Parce que généralement, bah, quand tu fais un burn-out, t'as été rabaissé pendant assez longtemps et t'as juste besoin de te dire, ah oui, je suis douée. Et si, il y a des choses dans lesquelles j'excelle et je sais faire. Et en fait, je sais faire, tout simplement.
Moi, je bossais dans le textile. Je suis restée longtemps dans une entreprise où, en fait, ça s'est fait petit à petit. Hein, je suis restée quand même un certain nombre d'années dans cette entreprise. Et le fait est qu'au fil des années... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup. C'est-à-dire que quand je fais un truc, et je pense que c'est un peu la base du burn-out aussi, c'est l'investissement. Quand je fais un truc...
Comme les paresseux, ils font quoi de
burn-out ? Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont détachés.
Engagés de la vie, ça fait c'est pas ça. De burn-out.
En fait, moi, je sais que quand je fais un truc, je le fais à fond, sinon je ne le fais pas. Et pareil dans mon boulot, quels que soient les boulots que j'ai occupés, Alors, je sais pas si c'est une peur de l'échec ou si c'est la volonté absolument que ce soit toujours parfait. En tout cas, je sais que j'ai tendance à avoir une exigence importante avec moi-même. Et du coup, je suis une bosseuse parce que je veux que ce soit parfait. Mais je sais que ça peut jamais être parfait, mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Du coup, bah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas compter ses heures, ça veut dire rester jusqu'à 20 heures au boulot, souvent, voire très souvent. Et en fait, au fil du temps, on s'investit. Et en fait, moi, ce qui a commencé à me peser, c'est le manque de reconnaissance. En fait, je me rends compte, là, avec le recul, que j'avais un manque de reconnaissance énorme. Que je me suis peut-être sûrement auto-créée aussi, hein, parce que, voilà, j'avais ma reconnaissance, j'avais un salaire, voilà. Moi, ça se passait bien avec mes collègues, je m'entendais bien avec eux, j'avais pas de soucis. Mon boss était loin d'être un tyran, il était plutôt sympa et tout, mais... J'avais toujours un manque de reconnaissance. J'attendais quelque chose, en fait, qui ne venait jamais. Et donc, je m'investissais, mais ça ne venait toujours pas. Le fait est qu'au fil du temps, bah, on finit par se demander à quoi bon, en fait.
Et t'attendais
donc,
quoi
bah, j'attendais, j'en sais rien, j'attendais une évolution de salaire, j'attendais un autre poste, j'attendais... Je sais pas ce que j'attendais, mais en tout cas, ça ne venait pas. J'étais dans un service où on avait toujours tendance à en demander un peu plus, toujours. Donc bah, on le faisait, on prenait. Plus comme je suis un peu une stressée de la vie, forcément quand on forme quelqu'un, bah, déjà on a sa propre charge de travail, il faut former en plus, ce qui est normal hein, parce que la personne arrive, elle peut pas tout connaître. Et t'as toujours le stress de merde, j'espère qu'il va pas y avoir des boulettes qui vont être faites. Donc t'as toujours ce stress de recontrôler derrière. Et comme déjà je suis du genre à me recontrôler moi et en plus recontrôler le boulot d'une autre personne, enfin ça, voilà, contribuer aux choses. On m'a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et là il y a des paroles qui ont été faites qui n'ont pas été tenues, et en fait moi ça m'a blessée, mais vraiment, peut-être de manière excessive, mais voilà. D'accord. Donc en fait j'ai ma frustration qui a monté. Je continue quand même à faire mon boulot, mais voilà. D'ailleurs c'est une période où j'ai décidé de commencer un bilan de compétences. C'est pas pour rien. La première séance que j'ai eue à mon bilan de compétences, la personne qui m'accompagnait m'a dit au bout de 10 minutes, je vous arrête tout de suite, en fait, bah vous êtes à deux doigts du burn-out. Ouais. j'ai dit, mais non, mais pas du tout.
Vous êtes sensible à la question.
Mais pas du tout, pas du tout. Il m'a dit, mais si, moi je vous donne pas 2 mois pour être en arrêt, en fait. À ce train-là, je vous donne même pas 1 semaine pour être en arrêt. J'ai quand même tenu un petit peu, et puis au mois de novembre, c'est marrant, je me souviens très bien de ce jour, c'était mon anniversaire, le 11 novembre, et donc en fait mon petit mari vient me réveiller gentiment avec un petit déjeuner au lit, une bougie sur mon pain au chocolat, et là je le vois arriver et j'ai fondu en larmes, et je me suis dit, en moi-même, mais il me dit, pourquoi tu pleures? Je sais pas. Et en fait, ce jour-là, j'ai pleuré toute la journée. Allez. Et j'étais même pas capable de dire pourquoi je pleurais. Et en moi-même, je me disais, mais t'es complètement marteau. Et je me suis dit, mais t'es complètement dingue, en fait. En plus, il y avait un repas chez mes parents et tout. J'étais là, j'essayais de me cacher. Ma mère était, mais ça va? Oui, ça va, ça va. Enfin bref, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, mon anniv, c'était un samedi. Et donc le lundi, je retourne bosser. Enfin, les murs tournaient bosser. Et en fait, je me suis rendu compte que toute la journée, ben, j'étais plus moi-même. C'est-à-dire que moi qui suis hyper consciencieuse, normalement, qui suis là, non, on va pas faire ça. Non. Là, c'était... J'ai complètement déconnecté de mon boulot, mais je me reconnaissais plus moi-même. Je rigolais nerveusement. Par exemple, mon assistante me disait, parce que j'étais acheteuse à l'époque, mon assistante me disait, la galère, il y a le fournisseur qui veut décaler la livraison de 2 mois alors que le produit, il est en pleine page de catalogue, hein, le drame et tout. Je rigolais, je disais, oh ben tu sais, dis-lui 3 mois, 3 mois c'est bien, tu peux lui dire même 6 mois s'il veut. Elle me disait, mais t'es sûre que ça va? Ouais, ça va super, je m'en fous en fait. Et donc toute la journée, je me suis rendu compte, j'étais anormalement détachée de la situation, donc à l'opposé de ce que j'étais avant. Et en moi-même, je rigolais toute seule, je me disais, mais je suis complètement marteau. Et en fait, le soir, je me suis dit, bon, il y a quand même un truc qui va pas dans ma tête là en ce moment. Donc j'ai pris rendez-vous avec mon médecin. Le lendemain, j'ai de la chance d'avoir un très bon généraliste. Il m'avait arrivé, au bout de 5 minutes, il m'a dit, bon, on va commencer par un arrêt de 2 semaines, parce que là, je pense que ça va pas être possible. Là, vous êtes à 2 doigts du précipice, donc il vaut peut-être mieux s'arrêter avant l'impact. Hein. Et le fait est que j'ai été en arrêt pendant à peu près 4 mois, et au bout des 4 mois, je me suis fait une raison, je me suis dit, bah non, en fait, je ne peux pas y retourner, je ne peux pas. C'était physique, ouais, c'est ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le textile me manquait quand même, parce qu'il y avait des choses que j'aimais bien dans le textile. Je vais pas dire que je détestais mon boulot, parce que c'était pas du tout le cas, hein. C'est qu'il y avait des choses qui me dérangeaient, mais j'ai les compétences, on va dire les connaissances de comment ça fonctionne, etc. J'ai le bon réseau, j'ai l'envie, j'ai le temps devant moi, puisque du coup j'avais un peu de chômage à venir, on va dire. Je me suis dit, t'as quoi à perdre? Au pire, quoi? Au pire, tu perds peut-être un peu de sous, mais tu vas pas perdre non plus toutes tes économies. Et au pire, si tu le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, bah, effectivement, j'ai pas grand-chose à perdre. Et si je le fais pas, je vais peut-être le regretter toute ma vie de ne jamais avoir osé franchir le pas.
Et donc aujourd'hui,
j'ai créé ma marque de vêtements d'allaitement qui s'appelle Atelier Belette. En hommage à ma fille dont le surnom est La Belette, qui a maintenant 18 mois, qui grandit bien. En tout cas, pour l'instant, je ne regrette rien. C'est sûr que c'est des sacrifices de monter son entreprise. T'as plus, comme tu disais, le confort du salariat, les congés payés, parce que en fait, quand tu montes ta boîte, bah, t'es jamais vraiment en congé, parce que t'as toujours dans un petit coin de ta tête ton boulot.
Ta journée de travail elle est extensible jusqu'à 2h30, puis tu recheck un truc.
C'est ça. Ouais, t'es là à répondre aux gens sur Instagram à 00h30. Avec mon mari à côté qui pète un câble. Oui, t'es encore sur ton portable. Bon. Mais je ne regrette rien parce que enfin je fais un truc qui me fait vibrer et qui a du sens pour moi en fait.
D'ailleurs, j'ai envie de revenir un peu sur ce que tu as dit. Donc toi, après le burn-out, tu as fait un autre boulot?
J'avais envie de reprendre une activité, mais je ne voulais surtout pas reprendre un CDI. Quand tu es en CDI, et c'est le problème que j'ai eu pendant des années dans ce job finalement, c'est que t'arrives pas à partir en fait, parce que t'as toujours ce truc de dire ouais mais quand même je suis en CDI. Et puis partir pourquoi?
Surtout quand tu sais qu'il y a 1 million de chômeurs en France, tu dis ouais j'ai un CDI, je veux quand même pas lâcher, faut pas déconner.
Et en fait ce que j'aimais bien finalement c'est qu'il y avait une date de fin, parce que je me suis dit bah voilà, je me mets là-dedans, je fais ça, mais je sais que il y a une date de fin.
Et donc s'il n'y avait pas eu Atelier Belette, t'aurais peut-être eu comme objectif d'avoir toujours des petits contrats où tu sais que tu n'es pas impliqué, tu ne vas pas peut-être t'engager à 100%, tu fais ton travail, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu te dis telle date c'est fini, je rentre chez moi.
Ça m'a pas empêché de m'impliquer quand même à fond là où j'étais, parce qu'en plus quand tu débarques dans une nouvelle boîte, tu dois tout réapprendre et tout, donc ouais, c'était quand même du taf, mais j'étais contente de me réinvestir dans un nouveau truc en fait, tu vois. Je remettais les compteurs à zéro, donc ça c'était plutôt cool. De toute façon il y a eu très vite le confinement et compagnie, hein, donc les choses se sont faites de manière finalement.
Ce confinement, franchement, il a fait beaucoup de bien.
Exactement. Il y a plein de choses qui sont remises en question.
À chaque fois que j'en ai autour du micro, le confinement, ça a été le déclic, ça a été l'occasion de, ça a été le moment où j'ai décidé de. Toi, c'est venu avant, après?
Alors moi, c'est venu bien avant le confinement. Je vais même présenter. Moi, c'est Louise. J'ai 31 ans et. Et dans mon parcours, on peut dire que j'ai un peu eu le parcours de la bonne élève, quoi. J'ai passé mon bac, j'ai fait mes études, mais en fait, très vite, mon parcours s'est inscrit dans du non-choix. En fait, moi, je voulais faire médecine, aider les gens, les soigner, sauver des vies. Et en fait, comme j'ai fait ES, on m'a dit non, tu feras pas médecine, tu vas forcément te planter.
Ouais.
Et donc, j'ai continué en éco, j'ai fait un IUT, une école de commerce, un parcours classique, économique, on va dire. Et en fait, très très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place. Et sauf qu'après avoir investi 5 ans dans des études, à m'être donné, parce que je suis, j'aime bien être perfectionniste, être première dans ce que je fais, donc je m'investissais déjà beaucoup à l'époque, je me voyais pas rebasculer en médecine après 5 ans d'études. Donc j'ai commencé mon master en alternance dans le textile, et en fait j'ai continué comme ça pendant 10 ans. À arriver au boulot en n'ayant pas trop de sens, donc j'ai quand même tenu quoi 10 ans en fait à faire semblant, à sourire alors que j'avais envie de pleurer, à faire semblant de bien aimer et puis toujours exceller, donc finalement de gravir les échelons, d'avoir de plus en plus de responsabilités, de briller toujours plus en réunion alors qu'au fond j'étais morte. Et en fait moi je suis tombée il y a, pour répondre à ta question, il y a 3 ans, mais en fait le burn-out il s'est installé vraiment 5 ans avant. Enfin, en fait, c'est hyper sournois. C'est un épuisement qui vient s'étaler sur plusieurs années où, en fait, tu te mens à toi-même parce que, en fait, on ne nous apprend pas à nous connaître. Donc, je ne savais pas quelles étaient mes valeurs. Je ne savais pas poser mes limites. Je ne savais pas qui j'étais, ce que je voulais, ce que j'avais envie. Et en fait, je savais que je n'étais pas à ma place. Je savais que j'étais hyper mal. Mais je savais pas répondre à cette foutue question, qu'est-ce qui te met en vie, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait sourire, quoi.
Si c'est pas ça, quoi.
C'est toujours ça le problème.
Et voilà. Et puis en fait, le corps, il m'a complètement lâché, en fait. C'était, je dirais pas du jour au lendemain, parce que j'ai commencé à faire des insomnies pendant 2 mois, j'ai pas dormi. Pas dormi. Du tout. Et je continue à aller au boulot. Parce qu'il fallait aller au boulot. En fait, moi, on m'a appris à finir mon assiette, quoi qu'il arrive.
C'était en pilotage automatique.
Automatique. Mais quand je finissais pas mon assiette, on me mettait à la cave. Donc si tu veux, de pas finir un projet, tu vois la croyance de on continue, même si t'aimes pas, on y va. Et donc du coup, ce truc-là du coup, j'ai pas pris soin de moi en fait. On doit continuer quoi qu'il arrive. Pour prouver quoi, à qui, j'en sais rien. Mais voilà, du coup je suis tombée, ça en est suivi des mois d'enfer. Voilà, je suis devenue l'ombre de moi-même. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai encore beaucoup d'émotions quand je dois reparler, parce que c'est genre une période
horrible.
Ouais.
En fait,
c'est une question de vie ou de mort, en fait.
C'est...
Ouais. Donc.
T'es perdu, quoi. Tu sais plus.
T'es perdu, et puis t'as plus de goût de rien, parce qu'en fait, t'es vide. Voilà, quand il y a une définition du burn-out, c'est. T'es vide, en fait.
C'est que toi, t'as été au bout du burn-out, en fait.
Moi, j'ai connu, je pense. Ouais, l'effondrement.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, moi, j'étais très très mal suivie par un médecin généraliste qui me faisait des arrêts de semaine en semaine. Donc chaque semaine, je retournais dans le cabinet en pleurs, en stress total, en me disant « il va me demander de retourner au taf ». Et du coup, pas du tout sereine par rapport à cette période-là. Donc derrière, j'ai décidé de me faire suivre par un psychiatre et je n'ai plus honte aujourd'hui de le dire. Parce que c'est des sujets qui sont hyper tabous, de dire qu'on va voir un psychiatre, mais non, en fait, lui m'a sauvée, il m'a posé un diagnostic en me disant, en fait, là, vous faites un burn-out qui, malheureusement, s'est transformé en dépression, parce que mal suivi, parce que trop longtemps, et machin. Donc, bah, vous allez vous arrêtez de penser boulot et vous vous mettez dans une bulle. Donc ça a été le premier truc, et antidépresseur, en fait. Et ça, on n'en parle pas beaucoup quand on fait un burn-out ou une dépression, mais en fait, c'est aussi... ce qui permet à un moment donné au corps de sortir de cette bulle de cortisol, quoi. On n'en a pas l'impression, mais en fait, quand on vit ce truc-là sous pression pendant tant d'années, notre corps sécrète plus de sérotonine, de dopamine, et donc on est sans cesse en stress. Moi, j'avais développé une hypervigilance au bruit. J'entendais le moindre pas de mon voisin. J'étais en insécurité totale tout le temps. Et donc voilà, donc pour la partie pas hyper fun, mais finalement que je vis comme finalement un putain de réveil. En fait, ça m'a réveillée. C'est une prise de conscience aujourd'hui que je prends comme un cadeau. C'est combien d'années j'aurais encore poursuivi une vie qui n'était pas consciemment choisie, en fait. J'étais à côté de mon chemin. Aujourd'hui, ouais, moi, c'est une conviction que j'ai, c'est qu'il faut apprendre aux gens, mais dès la maternelle, ce que c'est que le développement personnel, comment on interagit avec les autres, avec soi.
Comment on s'accepte aussi.
Comment on s'accepte, comment on pose ses limites. Et donc de tout ce cheminement-là d'introspection, parce qu'en fait, au moment où on tombe, il y a un vrai besoin, en tout cas, moi, j'ai le besoin de repos total. Et après, thérapie, commencer ce chemin de reconstruction, de réconciliation, de se reconnecter à ses émotions, en fait. Il y a un gros travail là-dessus. J'avais l'impression d'être connectée à mes émotions, mais pas du tout, en fait, je les mettais sous le tapis. À force de sortie, parce que pour bien oublier la semaine, on va faire la grosse stuff, hein, ça va être une bonne idée. Et en fait, pas du tout. Donc reconnexion à ça, et puis travailler sur tous les traumas du passé. Construire un projet qui me ressemble, et finalement qui revient un petit peu à mon départ quand j'étais petite. De soigner les gens, même si aujourd'hui je...
Tu regrettes maintenant d'être partie dans la médecine ?
De pas être partie dans la médecine, je regrette pas, parce qu'aujourd'hui, le système médical tel qu'il est aujourd'hui, je pense que je m'y serais pas du tout plus. Franchement, je suis en burn-out aussi, en fait. Je me suis reconvertie dans le coaching et professeur de yoga, et donc vraiment d'accompagner les personnes à s'écouter et qu'elles puissent accoucher de leur propre vérité, parce que tu crées vraiment un espace de parole sécure. Et j'ai créé là récemment, ça s'appelle Hollywood, et je suis en train de travailler sur un programme pour trouver sa voie, reprendre confiance en soi, travailler sur tout cet alignement, et ça va passer par un gros gros travail d'introspection en premier.
Puis quand même une bonne fin.
C'est plutôt une bonne fin. Ouais.
Mais la question est-ce que tu serais arrivée à cette conclusion-là et à ce projet-là dans lequel tu t'épanouis si t'avais pas touché le fond de la piscine, tu vois ?
Alors moi, je suis convaincue que non. En fait, moi, dans ce que je porte dans mon projet, c'est en fait, on n'est pas obligé d'attendre d'être au fond du seau pour se créer une vie avec laquelle on est aligné et en joie. C'est un peu aussi une croyance sociétale, mais de conscience collective, où en fait il faut en chier pour réussir, et qui fait du mal à tout le monde. Donc non, je pense que vraiment travailler dès l'école, enfin petit, sur ce travail là de qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous anime, et pas simplement bac ES, S, L,
on s'en fout.
Surtout que c'est ridicule, il y a des personnes qui ont passé le concours en médecine alors qu'ils avaient fait des STG, des SMS ou je sais pas quoi, hein. Ils étaient même pas dans le général.
C'est juste qu'on aime bien nous mettre dans des cases.
Donc franchement, la personne qui t'a conseillé, elle est à côté de ses pompes, aucun intérêt.
Ah mais oui, aucun intérêt.
C'est le principe des bonnes et des mauvaises rencontres.
Ouais, et puis moi qui n'avais pas du tout confiance en moi quand j'étais petite, hyper introvertie, et bah tu te dis pas non. Enfin voilà, tu te fais bouder. Non, puis en fait, quand on te décourage, alors tu sais que c'est difficile, tu sais que médecine, déjà, tout le monde n'a pas. Et puis bon, des fois, dès le début que tu vas pas la voir, tu dis bon bah en fait personne croit en moi, et puis moi non plus je crois pas en moi, bah, donc faisons un unité où tu finis première mais t'en as rien à foutre parce que la compta, tu t'en branles.
Mais c'est dur de trouver sa voix, cela dit. Quel que soit ton âge, tu vois, je trouve que c'est hyper dur. Moi, c'est pareil, pendant des années, je me disais, mais je veux changer, mais je veux faire quoi, en fait? Je voulais un truc qui me fasse vibrer, mais quoi?
C'est parce qu'on nous a pas appris à faire le travail d'introspection étant jeune. Parce que tu attends d'avoir 40 piges pour connaître tes valeurs et tes besoins et tes priorités, c'est quand même pas normal.
C'est clair.
Passer 40 ans à faire des choses qui sont pas du tout en phase avec toi-même, mais tu les faisais. Parce que tu pensais que c'était...
Tu te laisses entraîner dans le truc et puis... Ouais, c'est
et
ça.
Puis une fois que t'es rentré dans la routine, c'est parti, il faut bien payer le loyer,
non, c'est ça.
Mais le travail, et c'est vrai que tu le commences très très jeune. L'estime de soi, les valeurs, les conneries comme ça, c'est dès le plus jeune âge en fait. Il n'y a pas d'âge vraiment pour ça. Il faut que même mon petit de 3 ans, il puisse me dire s'il est en colère, s'il est triste et pourquoi. Et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour que cette tristesse, elle s'en aille. Et au bout d'un certain temps, il faut qu'il puisse me dire que ça, c'est important pour moi. Bon,
c'est
ça, faut un peu.
On n'est pas du tout inhibé quand on est. Enfin, on est naturel et on arrive à déceler. C'est plus tard, à force de conditionnement et de nous dire il faut pas être comme si, être comme ça. T'es trop comme si, t'es trop comme ça.
Ah, bah,
rentre dans
ça.
Le moule, bah du coup tu.
Le moule. C'est une sorte de moule.
Et pour t'es pas faire de vagues, voilà, t'étouffes ta personnalité jusqu'à plus être toi-même, à exploser. Et donc, pour répondre à ta question, trouver sa voie. De toute façon, c'est un chemin toute ma vie, tu vois, là aujourd'hui j'ai décidé de partir sur l'accompagnement de personnes, aujourd'hui à travers le coaching, à travers le yoga, mais toute ma vie maintenant ça va être un travail d'ajustement. Est-ce que tiens, peut-être aujourd'hui c'est peut-être plus vraiment coaching, c'est peut-être la sophro. Et toujours se réaxer en fait.
Oui, c'est que maintenant je pense que t'as, après ce que t'as vécu, t'as plus envie de t'oublier non plus. Enfin, moi en fait je le vois comme ça aussi. Et quelque part, alors moi j'ai pas été aussi loin que toi parce que je pense que mon médecin généraliste il a eu la présence d'esprit de m'arrêter juste avant l'impact. Et tu vois, maintenant que j'y repense, je faisais tout le temps des rêves où je rêvais que j'étais au bord d'une falaise, où j'étais sur un fil, tu sais, en mode funambule. Et à chaque fois, je me réveillais, je me disais, mais l'image, elle est tellement parlante. Je me sentais comme ça. Je me sentais tout le temps à deux doigts de pleurer, à deux doigts de sombrer, tu vois.
Et au bord du précipice.
Exactement,
quoi.
Je me sentais au bord du précipice en permanence. Et heureusement que je suis tombée sur cette personne
qui
a su reconnaître tout de suite les premiers signes du burn-out. Parce que sinon, tu vois, moi, je connais des gens qui ont vécu des burn-out, ils n'ont pas pu sortir de leur lit pendant un an. Tu vois.
C'est ça.
C'est dingue, ça peut aller super loin, tu vois.
Ouais.
Et de toute manière, on va continuer à évoluer, même après un burn-out, c'est pas définitif en fait. Maintenant, comme tu dis, tu fais du yoga avec du coaching, bah peut-être que dans 5 ans, t'auras envie de faire autre chose. Et c'est cool, c'est bien.
Mais voilà,
ça fait pas de toi une girouette, tu vois. Tu fais ce que tu veux au moment où t'as envie de le faire.
Ouais. Mais je pense que passer par là, ça t'apprend à t'écouter et ça t'apprend à dire non. Tu vois, moi avec le recul,
Ça se
fait. Je me dis que si jamais un jour je retourne dans l'entreprise,
t'es comme de tomber dans le précipice, ça va être chouette. Quand tu me vois, j'arrête pas de le dire. Tu vois que t'es au bord. Arrête d'avancer.
J'adore cette image.
Ah mais c'est ça.
Recule.
C'est trop ça. Mais tu vois, je pense que au final, moi, je me dis, après, j'ai peut-être tort, mais si jamais je retourne dans le monde de l'entreprise après, je pense que jamais je m'autoriserai à m'infliger ce genre de truc de nouveau, tu vois. Parce que là, avec le recul, je me dis, mais enfin, mais pourquoi? Enfin, pourquoi tu t'es rendu malade à ce point pour un boulot?
C'est pour ça que ça peut vite revenir. Moi, j'ai vu là en commençant à créer ma boîte et tout. Il y avait quand même, t'as une espèce de réminiscence qui revient. Il y a quelque chose qui te refait vivre le même schéma où je bossais trop sur mon truc et.
Mais c'est pour toi, c'est pas pareil.
Ah ouais, mais.
Mais tu peux quand même tomber dedans, hein.
Oui, c'est vrai.
En étant dans ton compte à faire ce que tu aimes. S'il y a toujours pas ces phases de récupération,
tu peux te laisser bouffer par ton truc.
En fait, c'est toujours la même histoire du cortisol. À un moment donné, il y en a trop, qu'importe ce que tu fais, même si c'est trop kiffant, si tu as trop de cortisol dans le sang, tu vas faire les fameuses conséquences du système d'adaptation, tu vas refaire les phases du burn-out. Donc, c'est lâcher. De temps en temps, il faut savoir lâcher. Il faut savoir faire ces fameuses phases de récupération pour baisser ces taux d'hormones de stress, tout simplement. Et ça, qu'importe ce que tu fais. Et je pense que les entrepreneurs, c'est encore pire, parce que tu es quand même tout seul, tu as cette
pression,
il faut que ça fonctionne pour payer le loyer. Et je veux dire, t'es censé en vivre, quoi.
Ouais.
Donc, quand tu vois que ça traîne, ça marche pas, tu dis attends, si je carbure, il y a peut-être moyen. Et c'est là, t'es parti. Au revoir.
C'est clair.
Donc, non, faut quand même faire attention à soi. Hein. Toi, du coup, tu le vois comment ta cabane lactée, quand tu dis déjà aujourd'hui, si tu termines tes journées à minuit, ce sera comment quand ce sera au bout?
On va mettre un peu d'équilibre là-dedans.
Mais c'est vrai que j'ai pas non plus choisi
vraiment ma voie,
entre guillemets.
Non plus. Alors
là... C'est pas quelque chose que je voulais dire non plus.
Mais c'est pas faux. Alors tu me dis, non mais, ouvrir un commerce, mais pas être plus court, t'es sûre.
Franchement, c'est tellement génial aussi de s'investir dans un truc qui a du sens pour toi.
Ouais.
Et pour le, enfin tu vois, en lequel tu crois. Et enfin, c'est ton bébé, tu vois, c'est ton truc, c'est ton projet. C'est tellement... Ah, je sais pas, moi je... Bien sûr, y a dans toute entreprise, il y a des hauts et des bas, ou des moments de doute, etc. Ça, je pense que tous les entrepreneurs passent par là. Mais en même temps, il y a tellement cette phase, c'est hyper excitant, tu vois. Tu dis, je me lance dans un truc, c'est inconnu total.
Ouais, je reviens sur l'éducation et l'apprentissage, etc. Et pourquoi je suis allée en langue? Parce que c'est là que j'avais des bonnes notes, quoi.
Ah ouais?
Et je savais pas quoi faire.
Ouais.
Donc voilà, après, pareil, après la licence, maintenant, tu fais quoi? Soit c'est
tes profs
de langue,
soit
c'est commerce.
Oui, mais on est
là,
super mal orienté.
J'ai fait les diplômes parce que c'est bien d'avoir des diplômes, etc.
Ça.
Mais pour faire quoi?
Ça rassure.
J'ai jamais su en fait. Donc j'ai enchaîné les trucs.
C'est fou.
Ouais, pareil, j'avais deux bonnes notes. J'ai fait classe européenne depuis la quatrième. J'ai recommencé l'internat. J'ai même pris une deuxième option qui était facultative. Ouais, j'ai cumulé aussi les trucs, j'ai les diplômes, j'ai le double diplôme, j'ai fait un an en Norvège, machin truc, j'ai étudié aux
États-Unis. J'ai fait plein de pays, ce que je...
Et tout ça, pas pour rien, parce que j'ai vécu une expérience extraordinaire, mais pour toujours, là, au bout, ne quand même pas savoir ce qui...
Le retour à la case d'études, suite m'envie, quoi.
Ouais, rentrer dans une école de danse, parce que je faisais de la danse depuis mes 4 ans, et j'ai eu tous les conseils, alors, bienveillants, mais qui partaient quand même de leur peur, qui... C'est hyper compétitif. Une blessure, c'est fini. Ta carrière à 30 ans, c'est fini. Il faut que tu te reconvertisses en prof, etc.
Laisse-moi faire ma carrière jusqu'à 30 ans et après on verra.
Mais on fait tout pour te décourager de partir dans des trucs qui ne sont pas dans les bonnes cases.
Ouais. Et du coup, aujourd'hui, comment tu le vis, ta cabane lactée?
Pour l'instant, je suis un peu dans le stress du CAP. C'est quand même l'objectif à court terme qu'il faut que j'aie pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et recherche du local, qui est quand même un peu complexe.
Et aujourd'hui, ça va, c'est cool?
Ça va, c'est cool.
Et qu'est-ce qui te fait dire ça?
La tête de mon petit bébé.
Ah, oh, c'est mignon.
C'est beau.
Il est trop chou.
Stress, ouais, non mais c'est vrai, ce luxe de pouvoir se réveiller tous les matins et prendre comme ça le temps avec ses gamins, c'est vraiment un luxe de ouf dans notre société.
Choisir ton rythme.
Et là je me dis, j'ai un conjoint qui est exceptionnel, on a un petit bébé trop mignon, et niveau pro en plus qui commence à se goupiller dans la bonne voie aussi, je me dis, ça y est quoi, wow, j'y suis, ouais, c'est ça.
Et quand tu regardes dans le rétro, tu te dis... Bon, j'ai quand même fait du chemin, tu vois. C'est vrai, quand je me regarde deux ans et demi en arrière, et là, de voir maintenant, je le fais pas souvent cet exercice, donc je vais me faire une lettre, je vais bomber le torse un peu. Ouais, c'est quand même fou. Donc aujourd'hui, je suis vraiment en phase de lancement, donc je suis pas encore... Bah voilà, il y a encore des périodes de doute, il va falloir à un moment donné aussi que ça fonctionne financièrement, voilà, donc il y a encore pas mal de questionnements, mais... Je suis à fond dans mon projet, je crois en ce que je fais et tout, donc je kiffe. Je kiffe ce que je fais.
Et donc, il y a du sens dedans.
Voilà.
Et pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, la psychiatrie, elle est très très mal vue encore aujourd'hui. Je suis encore une fois à la télé, hein. On y revient toujours. Ils nous bombardent avec des images de fous furieux dans les hôpitaux. Bah, prendre n'importe quel film qui parle.
Ah oui, bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est toujours.
Toujours des malades.
Le fou enfermé avec sa camisole de force et qui bave et tout.
Et en fait,
mais non, je vous assure qu'on.
Et pas du tout.
C'est
plusieurs niveau de psychiatrie en fait, et quand tu sors d'un burn-out, tu vas pas te retrouver avec le schizophrène paranoïde. Les gens, ils ont pas honte d'aller voir un cardiologue, j'en sais rien, moi, un dentiste. Donc c'est tout, la psy, c'est une spécialité
du cerveau,
psyché, c'est tout.
Bah,
il
n'y
a pas de honte, non, c'est fini. C'est fini l'époque où pour aller voir un psychologue ou un psychiatre, il faut être fou et il faut se claquer la tête contre le mur, pas du tout.
Mais je trouve qu'il y a quand même encore vachement cette image, je sais pas.
Mais je pense qu'après, c'est dur aussi
d'accepter
que t'aies besoin d'aide, tu vois.
Tu sais que c'est quand même une preuve de maturité, hein, de demander de l'aide. Les gens pensent que c'est de la faiblesse et tout, mais non, c'est vraiment parce que ça va, t'es assez costaud avec toi-même. que tu acceptes le regard de l'autre, que tu es décidé, et c'est là où tu vas aller demander de l'aide. Donc, généralement, quand tu demandes de l'aide, c'est cool.
Ouais, mais on me l'a donné, tu vois, la prescription. Je parle d'antidépresseur. J'ai mis 4 mois à les prendre. En ayant peur, en disant attention, qu'est-ce que ça va me faire?
Je donne l'image des béquilles.
Exactement.
Quand tu te fractures la jambe, t'as besoin de béquilles, on est d'accord. Sauf que c'est pas des béquilles à vie. C'est juste pour t'aider à te rééduquer et à un moment donné, tu reprends tes pattes quoi, et tu marches normal. Mais les antidépresseurs, c'est ça. C'est pas un traitement comme pour le cœur que tu vas prendre à vie. C'est un traitement qui est là pour te booster, pour aller nourrir ce qu'il faut tout de suite. Parce qu'il faut le nourrir tout de suite. C'est pas le moment de manger des haricots, du jambon de dinde, je sais pas quoi, pour sécréter de la sérotonine. C'est du tout de suite. Là, t'as besoin d'un boost rapido. Et ben, l'antidépresseur, il est pour ça. Il est là pour ça.
Ben ouais.
Et puis, petit à petit, sevrage. Et là, tu peux remplacer par la naturopathie et compagnie. Mais
je voyais, je prenais des gouttes de figuier. Enfin, tu sais, j'ai voulu me soigner toute seule et tout, mais non, bah non. Non, ça marche pas. Enfin, en tout cas, moi, ça va pas marcher.
Pas quand t'arrives à un stade comme ça, non, retour. Non, non, non.
Voilà.
Quand t'es au tout début, que t'as pas sauté de la falaise, tu vois. Ok. Là, une fois que t'as sauté, c'est mort, c'est fini.
Bah ouais, non, après, je pense, c'est peut-être important, donc chaque cas est différent et tout, mais en tout cas, oui, il y a ce truc-là d'aller voir des pros. Enfin, ouais.
Quand tu dis que ça s'est retourné en dépression, c'est tout, c'est fini. Les e-books gratuits ou je sais pas quoi, non, là faut prendre le truc à bras-le-corps, il faut aller voir un pro qui va, comme tu dis, travailler sur des traumatismes. Moi je vais pas travailler sur des traumatismes. Non, c'est pour ça les gens, je leur dis appelez-moi.
C'est
parce
clair.
Que si c'est
hyper
trop
important.
Poussé, c'est pas pour moi.
Moi non plus.
Et je vais pas venir te vendre un rêve, je vais pas travailler sur tes traumatismes d'enfance, pas du tout. Mais si c'est le cas, il faut aller voir un psy, il n'y a aucune honte à aller voir un psy. Alors si vous aviez un conseil.
Bien s'entourer
aussi.
Toi, j'ai pas entendu, t'as dit quoi ?
Oser.
Oser.
Ouais, j'ai
l'impression. Que ce soit oser faire ou oser partir si ça va pas, dans les deux sens, oser.
C'est dur quand on est né dedans, mais tu vois, quand tu prends le recul, clairement, tu te dis, mais enfin, pourquoi ? Pourquoi j'ai accepté ? Pourquoi je me suis mise dans cet état ?
J'ai laissé traîner si longtemps ce truc.
C'est ça.
Ouais, vraiment, oser s'écouter. En fait, si ça va pas, si on pleure le matin pour aller bosser ou qu'on fait des insomnies.
Aucun boulot ne vaut de se mettre dans un état pareil, ça.
Et même pour une maman, une femme au foyer, quoi.
Oui.
Aucune vie de famille ne mérite d'être mal dans sa peau du matin.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que t'as pris autant de plaisir que moi à l'écouter. Pour récapituler l'épisode, eh bien, on a vu différentes formes de burn-out. Le bore-out et le brown-out, c'est-à-dire l'ennui total et le manque de sens dans ses tâches au quotidien. Et puis le burn-out professionnel, tout simplement. T'as pu voir que Louise, son burn-out professionnel, son épuisement physique et émotionnel s'est transformé en dépression parce qu'il a été pris en charge trop tard. C'est pour ça que je n'arrête pas de répéter: ne laissez pas traîner les choses. Si tu m'écoutes, c'est que tu as déjà un doute, c'est qu'il y a déjà une petite prise de conscience, et donc il faut commencer à mettre en place des choses, parce que plus tu vas tarder à réagir et plus tu risques de tomber dans cette dépression qui va être plus compliquée à prendre en soin. C'est normal. On a pu voir quelques déclencheurs de burn-out, à savoir le manque de reconnaissance, mais aussi le perfectionnisme, le fait, voilà, comme Marion qui contrôle, recontrôle, recontrôle. Donc ça peut peut-être être un manque de confiance en soi ou juste une façon de faire qu'il faut revoir. Mais comme elle a dit, tout simplement, elle attendait ce qu'on lui a promis et ce qui n'est jamais venu au final. T'as pu voir aussi avec Louise que l'éducation qu'on a eue, le conditionnement qu'on a eu peut affecter notre façon d'être. Et donc, même si elle n'aimait pas du tout ce qu'elle faisait, il fallait qu'elle aille jusqu'au bout des choses. Et c'est ça qui lui a coûté finalement un effondrement suivi d'une dépression. Et Julie, qui a suivi un cursus, comme elle dit, suite logique, mais qui ne lui correspondait pas du tout et qui ne lui parlait pas, et bien, résultat, elle avait beau enchaîner différents postes, c'était toujours la même chose, un gros manque de sens et un ennui total. On a pu voir aussi que pour sortir de ce burn-out, la créativité a un rôle mais juste magique, parce que ça te revalorise, parce que ça te rend fier de toi, ça remet du sens dans ce que tu fais, ça te reconnecte à tes émotions, à tes ressentis, et surtout avoir un projet de vie aussi grandiose qu'il soit, en tout cas un projet de vie qui te correspond, qui te parle, qui est vraiment aligné avec tes valeurs, avec tes forces, avec tes compétences. D'ailleurs, tu retrouves Louise dans le bootcamp Sortir du Burnout, vu qu'elle m'a préparé 3 exercices de yoga pour gérer ses émotions, pour préparer sa nuit et surtout pour faire des étirements le matin. Et ce projet de vie, il est évolutif, c'est-à-dire que tu le fais maintenant parce que tu en as besoin maintenant, mais dans 5 ans, ça peut très bien changer. Et le but, c'est de continuer d'être toujours autant connecté à soi pour réajuster, changer, évoluer quand c'est le moment. Et enfin, eh bien, demander de l'aide est une force, est une maturité. C'est que tu es déjà en mode évolution, c'est que tu es déjà en train de sortir de ta zone de confort, et ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, pas du tout. Donc si tu m'écoutes et que tu as un doute et que tu as une toute petite prise de conscience, mais voilà, tu sais que ça ne va pas, tu sais que ton quotidien n'est pas celui dont tu as envie, voilà, tu es vraiment déçu un peu de tes journées, tu sais que tu espères mieux, que tu tends vers un meilleur quotidien, que tu as envie d'être plus heureuse et plus épanouie, voire même de changer de travail, ça sert à rien d'attendre que ça change tout seul, ça ne va pas se faire comme ça, ça ne sert à rien d'attendre l'ultime signe de l'univers qui te dit ouais vas-y c'est bon maintenant tu peux aller prendre soin de toi, parce que non, ça ne se passe pas du tout comme ça. La décision t'appartient et c'est toi qui décides de prendre soin de toi. Alors je te rappelle que tu peux réserver ton appel offert, tu vas juste parler de toi, de ce que tu affrontes en ce moment, et moi mon travail c'est de t'écouter avec bienveillance et sans jugement et sans tabou, et de te proposer des pistes que tu pourrais appliquer assez rapidement et voir si tu veux qu'on travaille ensemble. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles, ça me permet d'être bien référencé et de faire vivre le podcast tout simplement. Tu peux le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, c'est très important. Et surtout, on se capte sur Instagram pour le live hebdomadaire et surtout pour continuer à échanger, à discuter en message privé. D'ici là, prends soin de toi et surtout, booste ton feeling.